15h-16h sur Europe 1.
Il n'y en a pas deux comme elle.
Marion Ruggieri.
Bonjour et bienvenue dans Il n'y en a pas deux comme elle. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Europe 1 tous les jours désormais entre 15h et 16h. Une place de choix entre Franck Ferrand et Cyril Hanouna. Autour de moi, la fine équipe du 3 à 4. Olivia de Lamberterie, bonjour.
Bonjour Marion.
Bon week-end Olive.
Excellent.
Édouard Dutour.
Bonjour les filles.
Édouard, vous n'avez plus votre harnachement
ah,
là
si,
comme l'autre jour.
Je ne quitte jamais un numéro. C'est ma nouvelle clavicule.
Voilà. Et un petit nouveau, Pascal Gomez est avec nous aujourd'hui. Bonjour Pascal, vous allez bien?
Très très bien, j'arrive du Brésil où je travaillais jusqu'à présent et c'est formidable de vous retrouver.
Eh bien soyez le bienvenu dans la bande. Au sommaire aujourd'hui, c'est un cri, c'est un chant, c'est aussi un monument. À partir du 27 septembre, il prend tous les risques en montant sur les planches pour incarner un homme qui se retourne sur son passé. Ça s'appelle « Si on recommençait ». Et dans la vie, Michel Sardou sera notre invité.
Bonjour ma poupée.
Bonjour Michel. Avec lui, nous passerons en revue les tendances du jour. C'est le buzzomètre. Chacun a fait ses devoirs du week-end. Édouard a regardé la télé et les débuts de Léa Salamé. Olivia a lu le livre de la rentrée, elle va nous en parler. Et Pascal, eh bien Pascal s'est fait une robe en Rainbow Loom. Il nous racontera tout ça. Et puis ce sera autour de la question de 15h30, pourquoi la bourgeoise fait-elle toujours autant fantasmer? Car oui, cher Michel, il y a la rentrée scolaire, mais il y a aussi la rentrée mode. Et cette rentrée, on est bourgeois ou pas? Enfin,
on
nous
sait
retrouverons.
Ça a toujours fait,
on va en parler.
On sait.
Vous êtes bourgeoise, Michel?
Non, tout à fait. Complètement.
Vous dites ça avec l'œil qui brille.
Mais évidemment.
Enfin, c'est... nous retrouvons la revue de presse et le traditionnel questionnel. Mais tout de suite, place à notre invité, Michel Sardou. Il aurait pu rester chez lui, tranquillou, en Normandie, se reposer sur ses lauriers et ses records, se reconvertir en ténor de la course hippique, son nouveau dada et pester devant la chaîne Equidia. Mais non. Qu'est-ce qui pousse les hommes à se mettre en danger? Nul ne sait, c'est ce qui fait leur charme en tout cas. À partir du 27 septembre, il remonte sur les planches à la Comédie des Champs-Élysées, dans une pièce écrite sur mesure par Eric Emmanuel Schmitt et mise en scène par Steve Suissa, l'histoire d'un homme qui retourne dans la maison de sa jeunesse et se retrouve face à son passé. 40 ans après, ferait-il les mêmes choix? Ça s'appelle « Si on recommençait ». Michel Sardou, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous pour cette rentrée scolaire, ça va bien?
Ça va, ça va. Et je suis content d'être là pour la première.
Bah écoutez, ça nous fait très très plaisir. Alors Michel, je le disais, vous avez connu tous les succès. Des millions d'albums vendus, les tournées, les polémiques. Je serais tenté d'ajouter les filles.
Les bourgeoises.
Les bourgeoises. Le fric, vous pourriez vous la couler douce. Qu'est-ce qui vous pousse à remonter sur les planches? Est-ce que c'est le risque, le goût du risque, l'ennui, les impôts?
Non, non, c'est un besoin. J'ai débuté par ça. Ma formation, en fait, c'est acteur. Je prenais des cours de comédie. Je préparais le conservatoire. Le hasard a voulu que je bascule dans la chanson. D'ailleurs, c'est drôle parce que la pièce, au fond, va me révéler aussi si ça aurait changé quelque chose pour moi. C'est quand je fais ce voyage dans le temps, et ben je me retrouve un jour précis où j'ai pris une décision. Et je me souviens qu'à l'époque, dans ma vraie vie à moi, un jour précis, j'ai pris une décision, celle de devenir acteur.
Et ça, c'était quand?
Oh, c'était, je devais avoir 19 ans, quelque chose comme ça, 20 ans. J'ai choisi une femme, j'ai vécu ma vie, bon, puis ma vie a été celle que tu résumais avec beaucoup de gentillesse tout à l'heure. Mais si c'était à refaire, si je changeais de choix, si je continuais par exemple mes cours de comédie, est-ce que je me retrouverais quand même ici dans le studio aujourd'hui en train de te parler d'une pièce que je vais jouer au Théâtre des Champs-Élysées? C'est ça l'histoire, en fait. Donc je joue un fantôme du futur. Je bascule dans le passé, personne ne me voit. Excepté moi, quand j'avais 20 ans, bien sûr, qui est interprété par Félix Beauperrin, qui s'en sort très bien, qui me joue moi à 20 ans, et j'essaye de voir si je peux influencer quelque chose. Personne d'autre, personne me voit, personne m'entend. Je participe à des discussions avec les autres acteurs, ils m'entendent pas, ils me répondent pas, ils me regardent pas. C'est un show, un one man show dans un show, en fait. Et je me dis, au fond, c'est une question qu'on se pose tous. Enfin, ou presque tous, oui. J'imagine.
Et si je vous pose la question, Michel, si vous faites ce retour vers le futur, vous étiez quel garçon à 19 ans? Vous étiez qui?
Moi, j'étais parti pour le théâtre, j'étais parti pour le... Je vais vous dire pourquoi j'étais parti. Mon rêve, c'était la Comédie française. Bon, j'en suis loin.
Shakespeare.
Je voulais ça. J'adorais ça, j'adorais les beaux textes.
Molière, plus que Shakespeare.
C'est pas interdit, Shakespeare.
Non, c'est sûr.
Et voilà, je me suis retrouvé chanteur, c'est le hasard. Et alors dans la pièce, on dit le hasard, surtout le hasard. Et quelqu'un me répond différemment. Et en fait, je me suis retrouvé dans la chanson, vraiment, alors que j'avais rien à y foutre. Je suis là, je suis venu pour remplacer quelqu'un qui pouvait pas chanter. Donc j'ai chanté à sa place, et c'est l'autre qui voulait se faire engager. C'est pas lui qui s'est fait engager, c'est moi.
Et vous étiez sympa ou un peu petit con à 19 ans? Vous étiez comment?
Ah non, j'étais plutôt sympa.
Oh, je suis sûr.
J'étais plutôt sympa, j'étais plutôt cool, j'étais bien. Je me suis marié très jeune. Je me suis marié à 19 ans d'ailleurs. Bon, c'est une connerie, par exemple. Si c'était à refaire, je prendrais peut-être pas la même femme. Mais à savoir, peut-être que je tomberais sur une pire. Et ce serait, et je me retrouverais dans la même situation.
Mais vous n'auriez pas les mêmes Olivia. Enfants qui sont,
tout non, à mais fait c'est pas les mêmes. Attendez, il y a, oh là, si on rentre dans la famille, c'est plus compliqué que chez les Perrier. C'est très compliqué.
Qui est votre femme. Oui. Aujourd'hui.
Finalement, ce qui conditionne, c'est plus les hasards ou les décisions qu'on prend? Parce que finalement, c'est le hasard qui vous a conduit où vous êtes.
La question que pose dans la pièce, je vous rassure, c'est amusant, hein, ça n'a rien, c'est pas philosophique, machin, on se prend pas la tête, on s'en parle là avec un mal au crâne. Mais ce que pose Emmanuel Schmitt comme question, c'est est-ce qu'on est sur une ligne, une fois pour toutes, et qu'on a une petite marge de réussite ou de perdre sa vie, mais c'est tout? Ou est-ce que quoi qu'on passe, quoi qu'on fasse, quoi qu'on décide, on revient dans la même situation où on est à l'âge où j'ai, c'est-à-dire 65 ans dans la pièce, ce qui fait que devant c'est moi-même qui avait 20 ans.
Voilà. Mektoub ou pas Mektoub?
Voilà, Mektoub ou pas Mektoub, est-ce qu'on est maître de ses choix? Est-ce que vous regrettez d'avoir fait cette carrière insensée dans
pas
la musique?
Tout, mais pas du tout, pas du tout. Alors si moi je regrette, alors je peux vous dire qu'il y en a quelques-uns qui vont se flinguer, c'est pas possible. Non, je regrette pas. Mais ce que je trouve amusant, c'est que la pièce correspond vraiment à ce que j'ai pensé. J'ai déjà fait du théâtre, j'ai déjà fait 5 pièces de théâtre. Chaque fois, j'ai pris du plaisir, ça m'amuse de jouer au théâtre, c'est différent.
Je vais formuler ma question autrement. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait assez le comédien, assez l'acteur?
Ça, oui.
Mais pourtant, on ne vous imagine pas du genre, Michel Sardou, avoir des regrets. On ne vous imagine pas regardant dans le rétroviseur, on ne vous imagine pas... Nostalgique.
Non, c'est vrai, je suis pas... Une fois que c'est fait, c'est fait. Bon, bien ou mal, on passe à autre chose, autour de la page. Je ne suis pas resté 2 ans sur si j'avais su, j'aurais dû... Non. J'avance.
Alors, en même temps, conduire une voiture en regardant dans le rétroviseur, c'est le meilleur moyen de se prendre un arbre,
ouais,
si je peux
plus,
me permettre.
C'est la gueule, oui.
Ça dépend si on fait en créneau, par exemple.
Mais Michel, vous échangeriez volontiers un tube contre un Molière, parce que c'est quand même bien d'être numéro 1 du top 50 pendant des mois, ça fait du bien, non? C'est cool.
C'est pas mal aussi de jouer
Ça vous manque, ça aussi, un petit tube, un gros tube?
Non, même pas.
Non. Vous en avez fait 50, faut dire.
Mais... Non, mais j'en ai fait beaucoup, oui. Mais maintenant, ça va. Ça va, maintenant, j'ai l'âge où je peux me faire plaisir. Donc, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est peut-être un Molière, oui. Mais pas celui qu'on croit, pas les rôles de Molière. Mais le professeur de philosophie dans Le Bourgeois, je serais formidable. Non, je dis ça au cas où le directeur de la Comédie Française m'entendrait. Je suis formidable dans Le Professeur de philosophie.
Olivia,
est-ce que c'est pas beaucoup plus difficile de devenir acteur comme ça? Là, vous allez tenir une pièce vraiment sur vos épaules avec, évidemment, d'autres comédiens. Est-ce que c'est pas... très difficile et on beaucoup plus difficile que de chanter.
Non, ah ben mais le théâtre est beaucoup plus difficile que la chanson.
Ah oui.
Moi, je sais quand je sors de scène, parce qu'en plus, lorsque je joue, en général, je reste tout le temps en scène. J'ai des rôles où je ne quitte pas la scène. Bon, moi, quand je sors, quand le rideau tombe, j'ai mal dans les os. Parce qu'on a une façon de se déplacer, une façon une tension nerveuse aussi, une concentration qu'on n'a pas, ou qu'on a moins dans la chanson. Il faut être concentré quand même, il ne faut pas exagérer. Mais dans la chanson, je transpire, je sors de scène, c'est terminé, je m'essuie, je bois un coup et puis je vais bouffer. Au théâtre, je suis vraiment crevé. Vraiment crevé.
Puisqu'on parle de bouffe, pardon, c'est très ennuyeux le théâtre. On dîne avant ou après? Question fondamentale.
Je suis en train de me tâter là.
Ah ouais.
Je suis en train de me tâter. Soit je bouffe un petit plat de pâte tout petit à 5h.
Ah mince.
Je vais faire une sieste, je lis ma pièce et je joue. Sur ma poche, je meurs de faim à 12h30.
Mais c'est ça.
Donc je suis emmerdé. Soit, je sais pas comment je fais. Je mange à midi, je mange pas à 5h. Je suis en train de calculer. Voilà.
On a le même problème ici. On s'est pas encore bien calé sur l'heure du repas en ce qui me concerne. Pascal.
Je sais que niveau petite pépé, vous avez fait une croix dessus, vous êtes admirablement marié. Mais est-ce que le whisky et cigarette avant d'entrer en scène, comme vous le faisiez en chantant, vous le pratiquez au théâtre?
Oui.
Bon.
Le whisky après. Pas avant.
Après.
Après, pour me détendre.
Mieux vaut.
Oui.
Michel, vous parliez du Molière, d'un Molière tout à l'heure. On vous a vu ému à la dernière cérémonie des Molières où votre fils Davy a eu le meilleur le Molière du meilleur comédien dans un second rôle pour sa pièce avec Francis Huster.
Ça m'a fait très plaisir, très plaisir. Il le mérite. Vraiment, il le mérite parce que il m'a épaté. Il a fait son boulot comme il faut le faire. Petit à petit, il a mis 10 piges à apprendre, à travailler, à aller de la droite à gauche. Et puis, je l'ai trouvé très bon, c'est ce que je vous disais. Bon, là, il est peut-être un peu prétentieux, ce qui paraît que sur BFM, il a été dit, avec le fils de Brasseur, on va cogner nos pères.
C'est normal, c'est psychanalytique, mais... c'est normal, il faut tuer le père.
Pascal, et en plus, il est à l'affiche.
Oui, vous jouez tous les deux des textes d'Emmanuel Schmitt, d'Eric Emmanuel Schmitt, tous les deux mis en scène par Steve Suissa. Ouais, ouais. Il y a un petit peu course de voiture, enfin, de voiture nouvelle contre voiture. Vieux bolide.
Enfin, qu'ils le disent à la télé, ça me fait chier. D'ailleurs, je vais l'appeler tout à l'heure.
Michel, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour parler des tendances du jour avec le Buzzomètre. À tout de suite.
Europe 1. 15h, 16h.
Il n'y en a pas deux comme elle.
C'est avec vous, Marion Ruggeri, et c'est l'heure du Buzzo.
Et oui, qu'est-ce qui fait causer? Qu'est-ce qu'on aime? On prend la température avec le Buzzo de l'après-midi. Je commence par vous, Edouard. Vous avez regardé les débuts de Léa Salamé qui remplace Natacha Polony dans l'émission de Laurent Ruquier.
Exactement, c'était samedi soir dans On n'est pas couché, le talk show de Laurent R. Parce qu'ici, on n'a plus tellement le droit de prononcer son nom, Marion. Vous avez déjà fait une bêtise. En revanche, bon, on peut parler de Léa Salamé, qui est pour moi la seule raison de rester devant la télé le samedi soir. Qu'est-ce qui se passe le samedi soir? Ben, Marion, elle va se coucher, généralement avant l'émission de Ruquier, et moi, je vais danser. Et bien là, tous les deux, nous avons regardé la télé. Et moi, pour une seule et simple raison, c'est qu'elle incarne, cette Léa Salamé, une vieille école française. En fait, elle est toute jeune, toute nouvelle, mais elle s'inscrit dans une lignée de la journaliste bonasse, un peu dans la veine des Anne Sinclair et des Catherine Ney. Catherine, pardonnez-moi, cette impertinence. Alors, les années passées, on avait la prof de français, Natacha Polony, un peu très péremptoire, très talent oratoire. Et là, c'est un autre genre, c'est la journaliste Sciences Po ITV. Vous voyez, c'est genre une fille qui pose des bonnes questions, aussi bonnes que ses courbes. C'est vraiment l'école ITV, c'est un peu la... C'est misogyne, Marion, vous trouvez?
Un poil, mais
bon. Mais non, mais
oh,
non.
Je sais pas si on dirait la même chose d'un garçon.
Écoutez, c'est exactement la même chose des garçons. Il y a de très jolis garçons qui présentent maintenant le 20h.
Enfin, on dit rarement, oui, Julien Bugier, il est aussi bon que ses courbes.
Ben, on ne fait que dire ça, que ses yeux, généralement, on vante ses yeux. En fait, là, j'ai pas vu des yeux. J'ai vu une bouche.
Je me fais fusiller du regard par Michel Sardou.
On peut plus rien dire.
On peut plus rien dire. Alors écoutez, Michel, si vous avez regardé la Salamé, moi, j'ai vu une bouche qui dit des choses intelligentes, mais qui est très jolie aussi. Un décolleté et surtout une fermeté qui donne envie de se faire un peu fouetter, vous voyez. Elle a ce côté journaliste qui pose des questions avec beaucoup d'autorité, droit dans les yeux, et on a envie qu'elle nous parle dans l'intimité, comme elle parle à la télé par exemple. À Dufo, elle lui a dit à un moment « Répondez !» Alors moi j'ai envie qu'elle me dise « Répondez !» Et je lui dis « Léa Salamé, c'est... » Ben, Léa Salamé, ça le fait, quoi. Voilà, c'est tout.
Ça, ce sont vos petits fantasmes personnels, oui. Edouard. Michel, vous regardez la télé
Salamé,
le soir?
Salamé, je la à l'époque sur iTélé, quand elle faisait avec Zemmour et...
Avec Zemmour et Domenech.
Elle était pas mal, là, aussi.
Ça se dispute, oui.
Oui, c'était très bien au milieu de ces deux fous, là.
Alors, Olivia, notre Madame Livre, alors vous avez le pif pour dénicher les prochains best-sellers. Et celui-ci s'appelle « Les mots qu'on ne me dit pas » de Véronique Poulain.
Exactement, et je sens le buzz arriver car l'histoire que raconte Véronique Poulain est vraiment forte et singulière. Ses deux parents sont sourds-muets et elle, non. Alors, ça ne change pas l'essentiel, c'est que c'est une petite fille et une adulte qui a été très aimée, mais ça change quand même beaucoup de choses dans le quotidien. Elle raconte que bébé, elle a fait ses nuits tout de suite, elle n'a jamais pleuré parce que de toute façon, ses parents ne l'entendaient pas. En grandissant, elle est devenue bilingue. Dans la vie, à l'école, elle parle avec des mots, avec du bruit, avec de la musique. Et chez elle, elle parle évidemment la langue des signes et avec son regard, comme elle dit, joliment. Alors ce livre, il est formidable parce qu'il permet de découvrir le monde des sourds. Et ce qu'on découvre, par exemple, c'est que le monde des sourds n'est pas du tout celui du silence, mais c'est au contraire un monde très très bruyant, puisque ils ne s'entendent pas. Et donc, elle explique qu'elle se souvient du bruit torrentiel de son père quand il faisait pipi, de la cacophonie, de sa mère dans la cuisine. Parce que quand on ferme un tiroir ou une porte de placard, eh bien, elle fait extrêmement du bruit. Et elle dit que la soupe a eu raison d'elle et qu'elle mettait des boules-quies avec ses parents pendant les repas parce qu'il faisait trop de bruit. Elle raconte aussi très bien la langue des signes. Alors, c'est une langue qui est très belle, qui est très poétique, mais qui est aussi très très crue. elle explique que les gestes ne laissent absolument aucune équivoque, et notamment dans le domaine de la sexualité, sa mère est extrêmement libre. Elle raconte, dans sa famille, il y a beaucoup de sourds, et elle raconte que sa cousine, un jour, est dans un endroit avec un jeune homme sourd. Elle le regarde d'une manière un peu appuyée et un peu équivoque. Et le jeune homme sourd lui dit « Toi, tu veux bite ?» Alors elle, elle est évidemment très très gênée. Et lui lui répond « Toi, pas gênée, bon sexe !» Et que effectivement, ils ont une...
En langage des signes, donc.
Oui, ou alors ils parlent parfois oui, sinon... un tout petit peu. Mais que c'est effectivement en langage des signes. C'est un livre très très sidérant parce qu'on voit que jusqu'à l'aube des années 80, les sourds n'avaient accès à rien et que la langue des signes n'était même pas reconnue. Au final, je dirais que c'est un livre très lacanien qui parle de malentendus entre cette jeune femme et ses parents, parce que parfois c'était difficile et douloureux, mais qu'au final ça devient une déclaration d'amour à ses parents pas comme les autres, qui est très très touchante, et c'est vraiment un livre intéressant, un peu à la Fournier, c'est un livre très cash, et je pense que ça va être un énorme best-seller.
Rappelez-nous le titre, Olivia.
Les mots qu'on ne me dit pas, chez Stock, de Véronique Poulain.
Et je vous fais confiance, Olivia, parce que Michel, à chaque fois qu'Olivia nous annonce un best-seller, ça s'avère. Exactement. Avant l'été, elle nous avait dit Un été avec Proust. Et voilà, ça a été, j'ai lu ça hier, le best-seller de l'été. Enfin, Pascal, on finit par un point, tendance. Alors justement, la tendance de l'été, c'était les Rainbow Loom, ces petits bracelets en élastique multicolore. Et là, je vous vois sourire.
C'est des petits bracelets. Alors moi, je regarde beaucoup les mamans et j'ai vu au bracelet, au poignet de toutes les mamans, ces petits bracelets en élastique.
Exact.
Je me suis intéressé au
Michel,
phénomène.
Vous connaissez ces petites choses?
Tout le monde en a vu. Alors, c'est né en 2010 aux États-Unis, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Tout le monde pensait que ça venait de Chine, par un Américain du Michigan qui s'appelle Chiong Chun. Bon, alors là tout de suite,
c'est quand même chinois.
Il y a quelque chose. Ça a fleuri partout au poignet de toutes les personnalités du monde. La princesse Kate, Julia Roberts, Miley Cyrus, ma mère. Enfin, toutes les femmes en ont porté. Les hommes
aussi. Oui.
Tout le monde. Et alors, figurez-vous que ce qui a attiré mon attention à travers ce buzz, c'est l'histoire qui est arrivée à Ellen Wright. Vous avez entendu parler d'Ellen Wright? Ellen Wright, c'est une galloise qui s'est passionnée pour ses bracelets parce que ses enfants en avaient. Et elle a décidé, avec une de ses amies qui était en plus atteinte d'arthrose, de fabriquer une robe. Donc elles ont utilisé 20 000 élastiques, ça leur a pris 40 heures. Elle a fabriqué une robe et elle l'a mise en vente sur eBay au prix de 70 €, qui était l'investissement en élastique. Les enchères sont montées à 215 000 €. Pour cette robe, alors j'ai fait un petit calcul, ça représente 5 375 € de l'heure de travail. Finalement, le tricotage de bracelets en élastique, c'est peut-être le métier d'avenir. En tout cas, un beau surf sur la tendance.
C'est très bien, belle histoire. Ça.
Belle histoire, et puis peut-être un plan B entre 3 et 4, qui sait.
Je travaille un maillot de bain révolutionnaire pour l'instant.
Ça va être joli, oui, surtout au sortir de l'eau.
Oh.
Merci à tous, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Michel Sardou qui nous fait le plaisir d'être là. Mais tout de suite, on écoute Devinez qui. J'annonce même pas le titre de la chanson.
Ouais.
Ah bah oui, en chantant évidemment.
Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon.
Il n'y en a pas deux comme elle. Sur Europe 1,
Marion Ruggieri.
Et oui, nous sommes toujours en parlant avec Michel Sardou à l'affiche d'une nouvelle pièce à partir du 27 septembre à la Comédie des Champs-Élysées, Si on recommençait, écrite par Éric Emmanuel Schmitt et mise en scène par Steve Suissa. Édouard, vous aviez une question en écoutant En chantant.
Oui, en écoutant ce tube qui a dû se vendre à 32 millions d'exemplaires, comme c'était le cas à l'époque, j'ai pensé quand même aujourd'hui sortir une sorte de single teasing de Johnny Hallyday qui va venir avec un album, je crois, dans quelques semaines, parce qu'elle a tourné les vieilles canailles, vous savez, des vieux copains là, vous, Dutron, Edith, Johnny. Oui. Est-ce que ça vous fait, vous trouvez ça chouette, vous trouvez ça fait un peu maison de retraite? Est-ce que vous allez passer une tête? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, vieilles canailles ou pas?
Oh, ça peut être bien. Pourquoi? Moi, j'en pense du bien.
Ah.
Ça fera plaisir aux fans des trois, d'ailleurs. Et puis c'est marrant de les voir ensemble. Au fond, enfin. Je sais pas ce qu'ils vont faire, à vrai dire, au fond. Donc, je crois qu'ils vont déconner un peu, qu'ils vont faire des sketchs, qu'ils vont nous le faire à l'américaine, un peu, un peu Sinatra, Sammy Davis, Dean Martin. Je pense que ça va être ça.
Ça vous auriez plus une aventure comme ça?
Moi, j'aurais pu, mais je suis beaucoup plus jeune. Moi, je suis arrivé après 70. Moi, je suis une vieille. Moi, je pourrais le faire avec Julien Clerc.
Évidemment.
Mais eux, ils sont pas
pignous. Avec Justin Bieber.
Oui, et puis avec Julien Doré aussi. Oui, quelqu'un de quoi.
Non, mais c'est vrai. Moi, écoutez, quand Johnny a eu ses premiers succès, j'avais 14 ans, j'étais encore à l'école. J'étais en seconde et. Et voilà, bon, Eddie, n'en parlons pas, j'étais en sixième. Donc,
De toute façon, c'est vous qui avez vendu.
Et de toute façon, je suis au théâtre.
Oui.
Mais par contre, je leur souhaite bonne chance parce que, qu'ils ratent pas leur truc, par contre. Qu'ils nous fassent marrer.
Ah oui, je vois bien votre petit clin d'œil.
Qu'on passe un bon moment, qu'on dise, qu'ils se lâchent un peu, quoi.
Passez une tête, ça fera un petit quatuor, ce serait sympa.
Et je pense pas, je suis au théâtre.
Allez, un soir, Michel.
Non, je ne chante plus, je suis au théâtre.
Après le théâtre?
Non.
Michel Sardou, vous avez dû mettre fin prématurément à votre dernière tournée qui s'appelait Les Grands Moments pour des problèmes de santé qui ont été un peu relayés par la presse. Est-ce que ça va mieux d'abord aujourd'hui?
Oui, ça va mieux, il n'y a pas de problème, mais ça m'a duré tout l'été, quoi. Enfin, depuis le mois d'octobre. C'est bien simple, depuis le mois d'octobre, je n'ai eu que des emmerdes de santé, que des interventions chirurgicales, que ce soit les sinus, les dents, le reste. Enfin bon, j'ai été malade, j'ai passé un été de merde.
ça arrive à des gens très bien.
Il pleuvait en plus.
Donc voilà, et là depuis, je te mens pas Marion, depuis deux semaines je vais mieux. Voilà, je suis en forme.
Toi, toi.
Tu vois, moi, j'étais inquiet pour le théâtre.
C'est parce que vous bossez en fait, vous êtes heureux quand vous bossez.
Ouais, il y a ça qui va me booster.
Vous êtes un sardou quand même.
Ouais.
Est-ce que ça a changé votre manière de percevoir votre carrière aujourd'hui?
Quoi, la maladie?
Ouais, la maladie,
non,
le fait d'être un peu comme ça,
à l'arrêt. Je n'étais pas malade au point de me remettre en cause complètement. C'était pas très grave. C'était très emmerdant ce que j'avais.
C'était
parce
contraignant.
Que ça m'empêchait de chanter d'abord. J'avais des cordes vocales grosses comme des petits doigts. Donc ça, c'est
quand on est chanteur, ne pas pouvoir chanter, c'est quand
c'est
même une angoisse abyssale.
Mais ça, j'avais pris ma décision de la pièce bien avant. J'avais pris ma décision, ça, c'est pas ça qui a influencé mon choix. Je vous avais parlé au théâtre ou chanté sur scène, on place la voix au même endroit, hein. C'est la même chose. Bon, c'est un peu plus facile au théâtre parce qu'on peut être enrhumé un petit peu, c'est moins gênant. Mais voilà.
Mais il y a des textes qui sont beaucoup plus longs à apprendre.
C'est très long ce que j'ai à apprendre. Et en plus, il écrit vicieux, Eric Emmanuel Schmitt. Parce que quand vous lisez le texte, c'est clair comme dans l'eau de roche, c'est limpide, ça coule, ça va vite. C'est plein d'humour, c'est plein d'images. Mais quand vous l'apprenez, vous vous rendez compte que il écrit avec des inversions. Il met l'adjectif avant le sujet. Il met beaucoup d'adjectifs qualificatifs, surtout quand il s'agit de femmes. Alors, de se mettre tout ça dans la tête. Et comme je suis seul sans réplique, et que j'ai pas de regard, et que j'ai personne à part des comédiens qui sont autour de moi, qui sont formidables, d'ailleurs des jeunes comédiens magnifiques, je suis seul, en fait je fais un one man show dans un show. Donc c'est très compliqué. Voilà.
Ce que vous disiez tout à l'heure, Edouard.
Façon, Michel, on ne sait jamais tellement où vous êtes parce que vous avez un problème de géolocalisation. Aujourd'hui, tout est géolocalisé, mais vous, on a du mal à vous suivre. Moi, je vous ai connu un peu Neuilly-Sarkozy, je vous ai connu Corse-Brout, je vous ai connu Neige à Megève. Oui. Votre dernier dada, c'est la Normandie. Je viens d'apprendre que vous avez
connu surfeur en Floride.
Évidemment, surfeur en Floride.
On s'en souvient tous.
Je viens d'apprendre que vous avez encore fait un coup pendable à votre femme. Vous venez encore de déménager à Paris. Vous êtes le Club Med à vous tout seul. Toutes les destinations.
Oui,
comment ça se fait? D'où ça vient cette boussole agitée?
Parce que je suis un artiste qui suis en tournée sur place. C'est-à-dire, je tourne, mais pas loin. Mais je suis toujours en tournée. En fait, l'idéal, ça aurait été une caravane.
Ah ben voilà.
J'aurais dû avoir une caravane.
Bon, savez, c'est ce qu'a fait Daniel Guichard.
J'ai failli acheter le camion de Bouglione. Je peux vous dire que le camion de Bouglione...
C'était plus classe que celui de Guichard.
C'est exceptionnel.
Ah ben c'est formidable.
Salle de bain, salle pour bronzer.
Alors Michel Sardou, je ne sais pas, c'est cette émission surprise, surprise. Voilà, Thomas Soto qui est avec nous, qui vient d'entrer dans ce studio, qui est un grand fan de Michel Sardou, qui depuis hier m'inonde de textos, le savoir, en me disant je viens. Honnêtement, on n'a jamais eu ça pour Nabila, Michel. Je ne sais pas comment il faut le
Nabila
prendre.
Qui
Nabila Benassia. Il n'y a pas une seule fille qui a déclenché ça chez Thomas Soto. Alors Thomas, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Vous voulez chanter une petite chanson?
Je voudrais déjà proposer à Michel qu'on fasse enfin un duo, parce que ça fait des années que j'y pense dans ma salle de bain. Oui. Donc il faudrait qu'on enregistre
quelque chose. Un duo dans votre salle de bain ?
Non, pas dans ma salle de bain. J'ai répété beaucoup.
Attention, vous savez que maintenant, quand on fait des duos dans la salle de bain, ça se retrouve sur des sites de hackers professionnels. Ouais,
parce que vous allez dans votre salle de bain avec votre portable. Moi, non. Michel, on ne prendra pas le portable dans la salle de bain.
Non.
Et je voudrais savoir comment vous faites pour retenir les paroles du lac du Connemara. Parce que ça fait 10 ans que j'essaye, 20 ans que j'essaye et j'y arrive pas.
Bah, cher, je les ai écrites en partie. Donc. C'est beaucoup plus facile quand on écrit ses textes de s'en souvenir, déjà.
Oh, ça dépend.
Mais en plus de ça, je mens un peu sur scène, le public le voit pas, mais j'ai quand même des prompteurs en bas qui me donnent tout, quoi.
On essaye ou pas? Terre
brûlée
au vent, des landes de pierre
doucement autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Le Connemara, des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le gonfle des corps du Connemara. On
vit
en c'est là qu'il faut y aller, Thomas. C'est là qu'il faut pas se dégonfler. Là, vous faites préliminaire et vous arrêtez.
Là, je suis comme ça.
Non.
Au printemps suivant,
j'ai un cheval qui s'appelle Connemara qui va débuter l'année prochaine.
Ah.
J'en ai même une autre qui s'appelle Terre Brûlée qui débute cette année.
Et Connemara, c'est en plat ou c'est en obstacle?
C'est obstacle. C'est steeplechase.
Et femme des années 80, non. Il n'y a pas femme des années 80 qui
court. Non, c'est il faut. Le problème, c'est que. Soit on a des purs sangs, et là on peut les appeler comme on veut, soit on a des AQPS ou des chevaux de trop, et là on doit respecter les lettres.
Comme chez les chiens.
Comme chez les chiens, voilà. C'est pareil, il faut respecter, là c'est
vous
la
avez au moins une chanson par lettre de l'alphabet, c'est pas compliqué.
J'avais le C, Connemara, c'est bien tombé. Mais Terre Brûlée, c'est une pure sang, donc là, je m'en fous, je fais ce que je veux.
Dites, Michel, comme on a Thomas Soto qui s'occupe de la matinale et qui parle beaucoup de politique chez vous, Thomas, moi j'ai une question politique pour vous, Michel. C'est comme le déménagement. Hein. Moi, quand je suis né, vous étiez à l'époque où la droite, ça rimait avec Réac. Après, je vous ai connu Hollande, mariage pour tous. Maintenant que Manuel Valls est de droite...
Vous avez connu Hollande, moi?
Quasi Hollande.
Vous plaisantez, je vous gifle.
Est-ce que vous êtes SOSDEM, comme on dit aujourd'hui? Est-ce que vous êtes social-démocrate comme les trois petits jeunes là, qui arrivent dans le gouvernement? Vous êtes où maintenant?
Ah, moi, je suis gaulliste, moi. Moi, j'ai toujours été gaulliste.
Vous êtes François Fillon, quoi, quasi.
Ah, pas du tout. Mais pas du tout. C'est pas du tout ça. Non. Je suis pas du tout hollandais. Bah, merde, alors. Ah, bah, non, je gueule assez, quand même. Non. J'aime bien Manuel Valls. Il a des couilles. Il s'est présenté au truc, mon vieux. Celui-là, je l'aime bien.
Ouais, c'est pas mal comme nom pour un
côté Sarko que vous aimez bien ou pas, Manuel Valls?
Il a pas de côté de Sarko. C'est un type qui est tout simplement réaliste et que le parti socialiste qu'on nous présente aujourd'hui est un peu archaïque et que, à mon avis, et que il faut changer un peu tout ça et se rendre aux réalités du monde. C'est même pas parce que je fais même pas de politique là. C'est et la droite, pareil. Quand on voit le bordel à l'UMP, on se demande où on est. On est sur Mars. Bon. Donc je suis dit d'un côté, dit de l'autre. J'étais gaulliste, pourquoi? Parce que quand De Gaulle passait à la télévision, mon père Solvay l'écoutait debout. Qu'est-ce que vous voulez, c'est influence.
Donc, ça, c'est
j'étais gaulliste. Je trouve qu'il a pas trop mal réussi. Après, il y a eu Pompidou, j'adorais Pompidou. Bon, maintenant, il n'y a plus ces hommes-là, c'est plus la même époque, c'est plus les mêmes problèmes. Voilà ce que je suis.
Et vous vous levez pour qui à table maintenant?
Pour l'instant, là, franchement, s'il y avait des élections aujourd'hui, là, je serais très emmerdé, là. Très, très emmerdé.
Bon, Michel Sardou, rassurez-nous, donc vous n'abandonnez pas le chant?
Ah, si.
J'ai rien que mes genoux. Non, vous venez de chanter.
Oui, je viens de chanter, mais j'abandonne le chant, là.
Notre duo, Michel.
Il y aura notre duo, mais je fais une pause.
Non, c'est mis entre parenthèses.
Je fais une pause de.
Chant de course, plutôt, en ce moment.
De théâtre qui va durer je ne sais combien de temps, mais.
Mais une parenthèse seulement.
Une pause.
Très bien, c'est noté, Michel Sardou. Vous restez avec nous, Thomas Soto. Vous
je suis
restez
vieux
avec
maintenant,
nous.
Merde.
Vous faites ce que vous voulez. Oh, mais nous
mais non,
aussi.
Vous êtes plus jeune que Johnny. Vous l'avez
dit. Ah oui,
je suis plus jeune que les deux vieux.
Moi,
il y a les vieillards et il y a les vieux.
On se retrouve dans un instant avec la question du jour. Faut-il s'habiller Bourges pour être à la mode? À tout de suite sur Europe 1.
Il n'y en a pas deux comme elle.
De 15h à 16h sur Europe 1.
C'est avec vous Marion Ruggieri, autour de cette table Olivia de Lamberterie, Édouard Dutour, Pascal Gomez, exceptionnellement aujourd'hui Thomas Soto et votre invité Michel Sardou.
Voilà, il y a un petit nouveau, un chroniqueur, Thomas Soto, qui trouvait qu'il n'avait pas assez à faire avec la matinale, donc il maintenant vient l'après-midi.
Comme j'aime bien, je me suis dit je vais passer le casting, on verra bien si on
voilà,
prend
pour une petite sieste de 3 à 4 et évidemment Michel Sardou qui nous fait le plaisir d'être avec nous avec une drôle de cigarette. Je sais pas ce que c'est une fausse cigarette, mais qui mime la vraie.
C'est franchement de la merde.
D'accord. Oui. Bon, bah, écoutez, c'est une bonne pub pour cette fausse cigarette.
Ça, faut surtout pas acheter ça. Ça coûte très cher en plus. Ça sert à rien. Ça pique la gorge plus qu'une vraie cigarette. Non, je peux pas fumer de vraies cigarettes.
Donnez-la-moi, on oublie. Allez, c'est fini.
Bon, écoutez, on peut la voir sur Europe1.fr pour ceux que ça intrigue. Alors Michel, nous sommes là pour la question du jour. Pourquoi la bourgeoise fait-elle toujours fantasmer? Car vous ne le savez peut-être pas, je vous vois sourire. Mais cette semaine, c'est la rentrée scolaire et la rentrée mode. Tous les féminins sortent leur spécial mode et le point commun, Olivia, eh bien, c'est le retour du style bourgeois.
Exactement, c'est le créateur de Givenchy, Riccardo Tisci, qui a lancé le mouvement. Et dans les journaux et dans les boutiques, on ne voit que ça. Alors ça, c'est quoi? Des robes en mousseline imprimées, des capes, des manteaux camel, des blazers noirs, des blouses imprimées léopard, bref, tout le charme discret de la bourgeoise. Alors pour ceux qui nous écoutent et à qui ça ne parle pas, je vais traduire en images. Cet hiver, on s'habille comme Romy Schneider dans César et Rosalie.
Oh, ça vous va, Michel?
Ah oui, très bien.
Très bien.
Très bien.
C'est une mode qui est un peu risquée, parce que très vite, on peut faire Claude Pompidou, mais très vite, on peut faire aussi Pom Pom Pidou. Comment on fait Pom Pom Pidou?
On fait pas Claude Pompidou du tout. Les bourgeois, ça a toujours excité tout le monde. Un petit tailleur, rappelle-toi les tailleurs Chanel.
Ça existe toujours.
Les vrais tailleurs.
Les vrais tailleurs Simone Veil.
Non, justement, les un peu costume d'homme, tu sais.
Très joli, bien sûr, masculin.
Alors, pour peu qu'il y ait barésie et un petit peu de montage pour accrocher les bas.
Thomas Soto, ça brûle. Votre style aussi de femme?
Simone Veil, moyen.
La bourgeoise, belle de jour.
Moyen.
Non, c'est quoi votre style, Thomas?
Moi, c'est décontracté. C'est un jean, une chemise blanche, un chemisier blanc.
Vous êtes bobo?
Bienvenue. En plus, c'est pas pratique. Un jean, c'est chiant. Exactement. Bourgeois, c'est facile. Non, mais c'est facile. Bourgeois, ça, c'est dans un coin. Hop, c'est vite fait.
Alors, Olivia.
Non, mais Thomas Soto a raison. Parce qu'il faut faire switcher un peu la panoplie de la bourgeoise. Donc, un, il faut oser la transparence. On peut mettre un chemisier à la Valière comme Simone Veil, à condition qu'il soit transparent. Deux, du court.
Image mentale, Simone Veil transparente.
Arrêtez avec Simone Veil, trouvez pas Fanny Ardant.
Catherine Deneuve
dans Belle de Jour, c'est parfait.
Très bonne référence, voilà. Parce qu'il y a un retour du noir et du vinyle.
Voilà.
Et vous vous souvenez de Fanny Ardant avec son impair.
Je m'en souviens tous les soirs.
Et la dernière chose, c'est qu'on va tous avoir une touche de léopard.
Une touche de léopard.
Ouais, vous aimez ça? Un petit sac en léopard. Je voulais choisir.
C'est le style Mobutu qui revient.
Oui, c'est vrai.
Michel, vous qui êtes marié à l'ancienne patronne de elle, Anne-Marie Perrier, on peut le dire, vous intéressez un petit peu à la mode?
Elle est bourgeoise, elle. Elle s'habille bourgeoise, elle est superbe.
Ah oui, ça, je vous confirme.
Elle est magnifique.
Est-ce qu'elle vous relook un peu, pantalon?
Oui, ça, elle fait très gaffe. Ça, par contre, ça m'emmerde un peu parce que, je ne sais jamais quoi.
Pantalon d'un, puis le col roulé noir, au hasard.
Ouais, par exemple. Voilà.
Mais vous l'avez évoqué, la bourgeoise. Enfin, moi, une de vos chansons qui me touchait particulièrement, quand vous évoquiez la croupe incendiaire d'une professeure de droit, c'est la bourgeoise en tailleur. On a envie de lui faire voler le chignon banane.
Et la plancher sur le truc, et voilà. La penche sur le bureau.
Et puis il y en a des articles du Code civil à bouquiner pendant qu'on travaille.
Édouard.
Écoutez, moi aussi, pendant longtemps, j'ai été très dans ce genre chic le jour, salope la nuit, pour résumer. C'est ça la promesse de la bourgeoise. Tout le monde comprend comme ça. Et je crois qu'aujourd'hui, ça n'est plus vrai. Je crois que la bourgeoise, c'est un monument historique. Je crois que c'est un vieux fantasme fait.
Mais on les visite, les monuments historiques, ceci dit.
Non, mais c'est une baguette et un béret. Je m'explique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a plus de silhouette. Vous allez vous croiser une fille de banlieue ou une star de R&B, eh bien, elle est habillée comme Simone Veil, on le disait tout à l'heure. Vous allez à la sortie de Polytechnique.
Enfin, Beyoncé n'est pas vraiment habillée comme Simone Veil, mais je veux pas.
Elle peut mettre du tailleur Chanel un petit peu plus court au niveau de la jupe. Vous allez à la sortie de l'ENA de Polytechnique, les filles sont habillées comme Nabila. Il n'y a plus de silhouette. Vous croisez un garçon dans la rue, vous pensez qu'il est homosexuel, et en fait.
Il est habillé comme Nabila.
C'est un homme infâme. Donc, en gros, moi, je trouve que l'habit ne fait plus le moine, ni le porte-moine d'ailleurs. C'est ça qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire qui est bourgeois, qui n'est pas bourgeois. C'est la démocratisation du bon look. Tout le monde peut être chic, il suffit d'aller dans les grandes enseignes et avoir un petit peu de style. Moi, je trouve ça plutôt cool. Donc, j'y crois plus tellement à cette étiquette, comme on dit.
Pascal.
Ah ben moi, je crois que ce qui fait la bourgeoise, c'est une attitude plus qu'un porte-monnaie.
Voilà, c'est ça, ouais,
c'est
oui.
Celle qui trottine avenue Montaigne, qui va circuler derrière dans une voiture avec des vitres teintées, et c'est celle pour qui, quand on est l'enfant du peuple, qui incarne la revanche sociale. C'est-à-dire qu'entrer dans la bourgeoise, c'est prendre l'ascenseur social très rapidement et monter d'un coup dans ce monde qui nous était inaccessible jusqu'à présent. Volontiers.
J'ai raison.
Michel.
Ouais, je suis d'accord avec lui.
Je suis d'accord. Bon, on en parlera mercredi avec Catherine Ney qui sera parmi nous.
Par exemple, voilà.
Quelqu'un
d'habillé en bourgeoise.
Une femme française.
Un peu plus court que d'habitude. Ce qui me fait chier, c'est que c'est toujours un peu long chez Catherine Ney.
Elle est très grande.
Oui, mais il faut que j'intéressisse un peu.
Eh bien, nous transmettrons le message. Merci à tous. On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de l'émission avec la revue de presse pressée et Michel Sardou en questionnel. Mais tout de suite, on écoute Cat on Trees. Love you like a love song.
It's been said and done. Every beautiful thought's been already sung. And I guess what now? Here's another one. So your melody will play on and on. With the best of them, you are beautiful. Like a dream come alive, incredible. A sinful miracle. Lyrical, you saved my life.
Il n'y en a pas deux comme elle.
15h, 16h sur Europe 1, Marion Ruggieri.
Merci de nous écouter. Nous sommes toujours avec Michel Sardou. Mais avant de le retrouver en questionnel, place à la revue de Pressé. Je commence par vous, Pascal, avec l'enquête. C'est une enquête sur le mariage. J'ai pas bien compris de quoi il s'agissait dans le Huffington Post.
Oui, c'est une enquête qui tente à démontrer qu'avoir eu beaucoup de partenaires sexuels avant le mariage nuirait au bonheur pendant le mariage. Alors, c'est deux professeurs d'université de Denver qui ont enquêté en 2007-2008 sur un échantillon de 1000 personnes entre 18 et 34 ans, parmi lesquels 418 se sont mariés. Et alors, il est sorti de cette étude que les 23% qui n'ont eu de rapport sexuel qu'avec leur partenaire final annoncent avoir un mariage beaucoup plus heureux que les autres. A contrario, les cobayes qui avaient multiplié les partenaires seraient plus malheureux.
Et ils ont plus de points de comparaison, c'est pour ça, c'est ce que ça sous-tend.
Voilà, alors moi je me suis dit, leur enquête visait à encourager les gens à n'avoir qu'un partenaire et à se marier avec. Moi je me suis demandé si au final, ce qui rendait malheureux dans le mariage, c'était pas tout simplement le mariage.
Non mais ça Pascal, je vous remercie pour cette... voilà, c'est parce que vous êtes en plein divorce que vous dites ça, non? Excusez-moi de révéler votre vie privée.
Non mais pas forcément.
La question la suivante,
Michel.
Pourquoi tu lis le Huffington Post?
Je vous rappelle que le Huffington Post, c'est dirigé par Anne Sinclair, qui est notre nouvelle collègue.
J'adore Anne Sinclair, c'est pas...
C'est pour ça que je lis le Huffington Post, parce que j'adore Anne Sinclair.
Oui, moi aussi j'adore Anne Sinclair, mais il y a des articles dans le Huffington Post, c'est complètement ridicule.
Celui-là a attiré mon attention.
Il y a notamment les relations sexuelles. T'as pas vu, il y a des trucs sur comment la femme et l'homme, enfin bref, les différences.
Alors justement, Anne Sinclair en parlera samedi prochain, samedi matin, sur Europe 1. Je suis sûre que ça lui plaira. Michel, de toute façon, on vous demande pas votre avis. Vous étiez marié à 19 ans. Olivia, la phrase qui tue,
mais plusieurs fois,
est signée Karl Lagerfeld et c'est dans la revue Numéro.
Elle m'a réduite en esclavage. De qui parle Karl Lagerfeld? Il parle de l'élu de son cœur, de Choupette, bien sûr.
Ah.
Sur 4 pages, il dresse un véritable hymne à sa chatte. Je cite. Elle a une jolie odeur naturelle, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. D'ailleurs, elle dort avec lui sur un oreiller à côté de son maître, lequel confie qu'il est souvent troublé par les regards qu'elle lui lance. Il dit « Elle me regarde comme si elle allait me poser des questions profondes, philosophiques, et je me demande parfois s'il ne va pas falloir parler de Kierkegaard. » Alors, il explique qu'elle a vraiment un traitement d'Aristochat. Elle a 2 gouvernantes qui consignent heure par heure le moindre de ses faits et gestes dans un journal. Elle a des gamelles en argent, elle a des bagages Louis Vuitton, elle a un iPad. Je ne sais pas très bien ce qu'elle écoute.
Peut-être qu'elle regarde.
Elle regarde, sans doute. Et elle ne voit vraiment que les gens qu'elle n'a envie de voir parce que Karl explique qu'elle pointe son nez à de très rares occasions, mais pour quelques invités d'exception comme par exemple, Caroline de Monaco, là, elle veut bien aller dire bonjour. Ce papier est inouï.
Elles se reconnaissent entre chattes un petit peu.
Dans Numéro, c'est à mourir de rire. Mais finalement, la révélation de ce papier, c'est que Karl, et c'est la première fois qu'on va dire ça de lui, Karl Lagerfeld est exactement comme tout le monde. C'est un pépère à son chacha. C'est tout.
Bonne conclusion. Michel, vous aussi, vous êtes un pépère à son chacha.
À son chien-chien.
Chien, moi. Non, j'ai pas de chat, j'ai des chiens qui dorment avec moi aussi.
Voilà, on va en reparler. Alors enfin, Edouard, qu'est-ce qu'on fait ce soir ?
Eh bien, ce soir, on relit l'édito de Gabriel Matzneff dans lepoint.fr. D'habitude, c'est pas un monsieur que j'aime tellement, pour des raisons... voilà, il est un peu contesté, mais là, il a fait quelque chose de très chouette. Il a commenté, la performance de Najat Vallaud-Belkacem aux 20h de TF1, où elle venait expliquer à la France entière comment les enseignants, comment les enseignants et les parents doivent travailler main dans la main autour de l'enfant. Et là, je me suis dit, mon Dieu, quel cauchemar, une sorte de réunion parents-prof toute l'année. Et alors là où il est génial, Matzneff, c'est qu'il cite, il paraphrase un écrivain, René Quinton, qui avait dit sur la guerre, il avait dit, il y a une grande paix à la guerre, c'est d'y être sans femme. Et puis il enchaîne en disant, il y a une grande paix à l'école, c'est d'y être sans parents. Et moi, je trouve qu'il a hyper raison. Vous savez, un flic peut pas rentrer dans une université. Eh bien, un parent ne devrait pas rentrer dans une école, parce que mon Dieu, c'est bien le moment où on peut être tranquille, et eux aussi, par la même occasion. J'ai une amie qui fait la rentrée des classes avec ses enfants cette semaine, qui m'a raconté que ses enfants, au lieu de rentrer mardi, comme tout le monde, rentrent jeudi, parce qu'il y a des entretiens individuels pour chaque enfant de 5 ans, un quart d'heure avec son institutrice. C'est pire que Sciences Po, quand même. Donc moi, je dis, à l'époque où nos parents nous jetaient de la voiture, et quand bien même, quand ils avaient
la
Renault 5, et quand ils nous emmenaient à l'école, ils nous jetaient avec un bisou et un coup de pied aux fesses à l'école, et ben on était bien comme ça. Les profs et les parents, main dans la main, c'est un cauchemar pour moi.
Et c'est un...
C'est une demande de la ministre de l'Éducation nationale.
Et c'est vous qui n'avez pas d'enfant, donc...
Pas d'enfant.
Et Gabriel Matzneff, qui est un spécialiste des enfants.
Mais pas pour les raisons qu'on connaît.
Dans un autre registre. Merci à tous. Avant de passer le relais à Cyril Hanouna et sa fine équipe, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Michel Sardou pour un questionnel. A tout de suite.
Europe 1. 15h, 16h.
Il n'y en a pas deux comme elle.
Avec vous, Marion Ruggieri, et c'est l'heure du questionnel.
Mais oui, le tant attendu questionnel. Alors Michel, vous ne connaissez peut-être pas le principe parce que jusqu'ici, on ne vous l'a pas infligé. Vous avez 2 minutes pour répondre à 10 questions. Est-ce que vous êtes prêt ?
Ah oui.
Alors c'est parti. Vous plaquez tout, vous partez où ? Attention, au bout de 7 secondes, on lance une...
Normandie.
Oh, bah c'était bien la peine. La personne à qui vous ne refusez rien.
Ma femme.
Celle à qui vous devez tout.
Annette Charlot. Inconnu pour par tout le monde, le plus grand professeur de chant que j'ai connu et que nous avons tous connu depuis des années. Elle n'est plus de ce monde, malheureusement. Mais vraiment, c'était quelqu'un de formidable.
Premier baiser.
Le premier baiser, je ne m'en rappelle plus.
Dernier coup de cœur.
Dernier coup de cœur, mon fils dans à l'affrontement.
Donc la pièce qui lui a valu un Molière. Question MPT, mariage pour tous. Quel est l'homme que vous pourriez épouser ? Oh, Thomas, on ne retient plus Thomas Soto.
Quel est l'homme que je pourrais épouser ? Ah, je sais pas.
Thomas, je suis confuse. Hein.
Thomas.
En direct.
Thomas, si tu veux.
On pourrait faire un truc, oui.
Ouais. Ça, dans la douche. Dans la douche, on serait plus à l'aise, oui. Oui.
Question PSG. Pensez-vous que le PSG soit Ibra dépendant ? 5-0 hier contre Saint-Etienne.
Je pense, oui.
C'est fou.
Il amène une âme. On a besoin de sa présence, même s'il marque pas de but. Ça booste.
Oui, je suis sûr qu'il leur fait peur en plus.
Dès
qu'ils mettent un but, vous avez remarqué, il lui saute dans les bras.
Oui, comme si c'était
maman.
C'est maman.
Question rafale, vous êtes plutôt frondeur ou Front National ?
Question quoi ?
Rafale, c'est-à-dire que ça va vite, mais bon.
Frondeur ou Front National, ni l'un ni l'autre.
Au tiers ou mensualisé ?
Je suis au tiers.
D'accord, il a augmenté ?
Oui.
Si on recommençait ou 5 minutes douche comprise ?
Quoi ?
Si on recommençait ou 5 minutes douche comprise ?
Non, c'est 5 minutes douche comprise. Chirac, oui.
3 rumeurs circulent sur vous, confirmées ou infirmées. 1. Il paraît que le cheval, c'est votre dada.
Oui.
Ah oui, ça c'est fin. 2. Il paraît que vous dormez avec vos chiens.
Oui.
3. Il paraît que vous êtes un ours.
Oui.
Bon d'accord, je ne me suis pas foulée sur celle-là. 11,6% des PV sont payés en France. Vous faites quoi des vôtres ?
Ah, je les paye aussi.
Bon.
Quand j'en ai, parce que j'en ai pas beaucoup. À vrai dire, j'ai eu un gros coup, un sale coup, un an d'interdiction de conduire, et puis c'est tout. Après, j'ai rien eu.
Est-ce que vous avez peur qu'un site de hackers dévoile des photos intimes de vous, comme c'est le cas avec des jeunes starlettes hollywoodiennes en ce moment ?
M'en fous.
Vous êtes tout le temps à poil.
Oui, je suis tout le temps à poil.
C'était pas une révélation.
Enfin, séquence droit de réponse, Michel. Comment avez-vous trouvé cette émission ?
Écoutez, très sympathique, comme d'habitude. Comme était l'autre le matin, là, que vous faisiez
le dimanche.
Filles,
on
dimanche.
A toujours un best-of ouais, en attendant le retour
d'Alexandra
Soublet.
C'est très agréable, c'est très frais, c'est très mignon. Vous êtes charmant.
Peut-être qu'il faudra que je change un petit peu cette question qui fait.
Avant
qui
des questions,
il faudrait
que tu te mettes un doigt parce que là, c'est quand même ridicule.
Fishing for compliments.
Enfin, Thomas, on finit avec Thomas Soto qui
parce que Michel, je vous ai piqué votre saloperie électronique. Je vous la rends si on chante ensemble le fauteuil. Si vous en pensez.
Attends, hein, ça faut que tu me montres le truc parce que j'ai oublié.
Qu'est-ce que le fauteuil hein.
Il était là dans ce fauteuil.
Mon spectateur du premier jour.
Comme un père débordant d'orgueil. Pour celui qui prenait son tour. Il était là dans ce fauteuil. Premier témoin de mes faux pas. Le cœur tremblant comme une feuille. Croyant que je ne savais pas. Il était là sur ma galère, lieutenant de la Providence, m'envoyant des ondes légères, comme le ciel de sa Provence. Il était là dans ce fauteuil, qu'il a loué pour l'éternité, pour m'applaudir du coin de l'œil, et de temps en temps,
rigoler.
Petit, merci Michel, merci Thomas Soto pour ce duo inédit. Il y a Cyril Hanouna derrière la porte qui piaffe. Merci Michel d'avoir joué le jeu. On vous retrouve à partir du 27 septembre à la Comédie des Champs-Élysées dans une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt. Si on recommençait, on se retrouve nous demain de 3 à 4 dans Il n'y en a pas deux comme elle. D'ici là, nous vous souhaitons un très bon après-midi.